Bonsoir, province de l'Ituri, la délégation du gouvernement central et les leaders de la RFRPI ont trouvé ce week-end à Guéthi un consensus sur les revendications de ce groupe armé. Ce, avant la signature d'un protocole, d'un accord final. Parmi les points sur lesquels les deux parties se sont mis d'accord, il y a les critères d'intégration au sein de l'armée et la reconnaissance des grades, ainsi que l'amnistie pour des faits insurrectionnels. Au sujet de la libération des leaders de ce groupe armé qui sont en prison à Kinshasa, le gouvernement promet de prendre des mesures appropriées. Quelle analyse faire du compromis trouvé entre les deux parties? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 9 décembre 2019. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître Lando Mafuta, il est conseiller du mécanisme national de suivi à la cellule thématique sur la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier dans la partie est de la RDC. Il est le point focal du MNS en Ituri. Maître Lando, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Jackson Aoussé Assingoto, il est député national élu du territoire de Rumu en Ituri. Il est cadre de la coalition Lamuka, voilà. Monsieur Aoussé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Didier Bitaki, ancien des groupes armés au Kivu, il est expert en désarmement et en droit international humanitaire. Didier Bitaki, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir à votre auditeur.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Edouard Loukeba Ambanzangungu dans le Congo central. Une fois encore, notre gouvernement négocie en position de faiblesse. Il va négocier avec des brebis galeuses. Dans ce pays, il faut finalement prendre les armes pour se positionner, soit dans l'armée ou soit au pouvoir. Les victimes de ces inciviques vous observent dans l'au-delà. Après-demain, d'autres groupes naîtront et s'attendront à une amnistie. Noah Basila, depuis Kisangani, cette initiative est louable et nous les appelons seulement au respect de l'engagement. Parfois, il est préférable de tout oublier et de tout pardonner pourvu que la paix règne. Merci de nous suivre à Bounia dans la province de l'Ituri sur la 104.9. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, la délégation du gouvernement central et les leaders de la FRPI ont trouvé un consensus sur les revendications de ce groupe armé. C'est à l'issue des négociations tenues vendredi et samedi à Guéthi. Le chef de la délégation venu de Kinshasa assure que les conclusions seront soumises au Premier ministre Sylvestre Ilunga, ce avant la signature d'un accord final en vue de pacifier les suds d'Irumu après deux décennies de conflits armés. Isaac Raymond Yopé nous en dit plus.
Le consensus a été trouvé sur plusieurs points contenus dans les cahiers des charges de la FRPI. Il s'agit notamment des critères d'intégration au sein de l'armée et de la reconnaissance des grades qui se feront dans le respect des normes établies, de la loi d'amnistie sur des faits insurrectionnels qui va couvrir la période de 2007 à nos jours. Concernant la libération des leaders de ces groupes armés qui sont aux arrêts à Kinshasa, le gouvernement a promis de prendre des mesures appropriées. Le chef de la milice FRPI s'est dit satisfait de l'évolution du processus depuis 2017 et a souhaité son aboutissement heureux. Richard Adiro Dumbadou. De notre côté, nous sommes pour la paix durable en Ituri et nous sommes très déterminés que tout le monde accompagne le processus jusqu'au bout. Le chef de la délégation du gouvernement central a déclaré que les conclusions de ces négociations qui augurent l'espoir d'une paix durable en Ituri seront soumises au Premier ministre. Jean-Claude Ngoï, conseiller du Premier ministre.
Nous, membres de la délégation gouvernementale, allons maintenant ainsi présenter les fruits de ce travail commun aux plus hautes autorités du pays qui nous attendent impatiemment pour les boucles doubles et signer dans un bref délai cet accord de paix.
De retour de Guéthi, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Merci Isaac Remoyope. Maître Lando Mafuta, je rappelle que vous êtes conseiller du mécanisme national de suivi à la cellule thématique sur la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier dans la partie est de la RDC. Vous êtes le point focal du MNS en Ituri. Compromis trouvé entre la délégation du gouvernement et les leaders de la FRPI le week-end dernier, et ce avant la signature d'un accord final parmi les points sur lesquels laquelle les deux parties se sont mis d'accord, il y a les critères d'intégration au sein de l'armée. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire que ces miliciens seront intégrés dans l'armée congolaise?
Merci beaucoup, madame, pour la question. Mais avant de glisser mon rapport à votre question.
Maître Lando, on a un souci. Mais, on a un petit souci avec votre ligne téléphonique. Si vous pouvez bouger. Allô?
Oui, je viens de bouger.
Non, ça s'améliore toujours pas. La réalisation va essayer de vous rappeler. Si vous avez un autre numéro de contact sur lequel on peut vous joindre, vous pouvez le donner au réalisateur. Comme ça, il va vous rappeler pour améliorer la qualité de la ligne. Ben avant, le temps que ça s'arrange avec Maître Lando, on va prendre notre invité qui est avec nous dans ce studio, Jackson Aoussé. Il est député national élu du territoire d'Irumu en Ituri. Il est cadre de la coalition La Mouka. Monsieur Aoussé, Jackson Aoussé, comment vous analysez ce compromis trouvé entre la délégation de la RDC et les leaders de la FRPI?
Je suis très heureux, madame. Je suis très, très heureux d'apprendre le niveau de cet avancement par rapport à ce processus qui n'a fait aussi beaucoup durer. Vous savez, moi, je suis l'élu du territoire du Rumu. Le territoire du Rumu, c'est un petit territoire. Il n'a que 11 chefferies et un seul secteur. Quand vous voyez l'activisme ou l'installation de faire pays, c'est presque au centre de ce territoire. Et madame, je veux vous dire que plus de 20 ans, plus de 10 ans, plus d'une décennie, qu'une population est en guerre, qu'une population est en déplacement. Moi, je ne parle pas ici comme le gouvernement, je ne parle pas ici aussi comme le partenaire qui accompagne la mise en œuvre. Je parle ici comme le peuple. Je parle ici comme le représentant de cette population-là. Et donc, nous sommes satisfaits parce que, madame, je vais vous dire que la paix n'a pas de prix. La population du territoire du Rumu et ses environs n'a pas besoin de deux choses. Ils n'ont que le besoin de la paix et peu importe ce qui sera comme formule, ce qui sera comme moyen qu'on va utiliser, il est fatigué.
Donc, si on vous comprend, monsieur Aoussé, vous êtes pour ce compromis trouvé, c'est-à-dire que vous êtes pour que ces miliciens soient intégrés dans l'armée nationale, qu'on puisse reconnaître leurs grades comme ils l'ont demandé parmi leurs revendications.
Nous n'avons pas le choix, malheureusement. À ce stade ici, à ce stade où nous sommes, je vous dis, une décennie, plus d'une décennie de la guerre. Il y a les gens qui sont morts dans nos familles. Il y a les enfants qui sont nés jusqu'à atteindre l'âge de 12 ans sans aller à l'école. Tout simplement parce que les familles étaient à débandade. Et les gens sont violés. Et les pièges récurrents. Et en fait, tous les secteurs de la vie est négativement affecté dans les territoires du Rumu.
Et donc c'est la FRPI qui faisait la loi. Il n'y avait pas d'autorité de
essentiellement,
l'État.
Essentiellement. Parce que toutes ces chefferies, je parle de 11 chefferies et un secteur, toutes ces chefferies et ces secteurs sont affectés d'une manière directe ou indirecte par ces fléaux. Et du coup, les territoires ne sont pas allés de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez au chef-lieu de ces territoires-là, vous ne trouverez pas les gens là-bas. Il y a que la directrice du territoire qui est là, Maman Rachel qui est là, et qui parfois est à Boun, il y a tout et tout. Donc, les chefs de lieu de territoire est invivable et tout et tout. Ah donc, au jour d'aujourd'hui, la population du territoire d'Irum s'impatiente. D'ailleurs, pour lui ou pour elle, elle dit, ils se sont mis d'accord sur le point, mais l'accord n'est toujours pas encore signé. Or, chez nous, nous savons, quand on promet quelque chose, ce n'est pas une année, mais heureusement que ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Alors, vraiment, nous sommes très, très impatients. Très, très impatients.
Je vous redonne la parole, monsieur Aoussé. On me signale que maître Lando est en ligne. Vous m'entendez, maître Lando?
Oui, je vous entends, madame.
Alors, voilà, ça s'est amélioré. Alors, je posais la question de savoir comment ça va se passer concrètement lorsqu'on parle d'intégration au sein de l'armée. Est-ce que ça veut dire que vous allez intégrer ces miliciens au sein de l'armée?
Merci beaucoup, madame, pour la question. J'aimerais, avant de pouvoir glisser mon par rapport à votre question, exprimer mon sentiment de gratitude à l'endroit de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, pour les efforts déployés à travers tous les pays à l'intérêt de la paix. Je vais également aussi glisser quelques mots de remerciement à la voix de Monsieur le coordonnateur national du comité exécutif du mécanisme national de suivi, pour et également son dynamisme et les dévouements, les dévouements à pouvoir appliquer à la lettre les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République pour faire revenir la paix dans cette partie du pays. Je voulais vous préciser que nous avons travaillé dans le cadre de la facilitation. Et à cela, je reviens pour saluer les efforts du gouvernement provincial d'Ituri pour son encadrement. Je n'oublie pas de saluer l'appui technique et logistique de la MONUSCO. Je voulais aussi saluer, pour finir ce chapitre, nos collègues experts avec qui nous avons travaillé dans le cadre de la facilitation. Il s'agit notamment de...
Maître Lando, est-ce que vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît?
Oui, pour répondre à la question, je voulais vous rassurer que, madame, cette question-là a été débattue entre les deux parties, la partie gouvernementale et la partie AFPI, et finalement, la question a trouvé un consensus. Et sur base de ce consensus, que le document est notamment été paraphé par le parti. Donc, en clair, le gouvernement a accepté de pouvoir traiter les cas de ceux qui feront demande, ces amis du RFPI qui feront demande, pour éventuellement voir comment la possibilité de pouvoir répondre à leurs demandes. Et lorsque cette demande-là est positive, ils seront intégrés, non pas seulement dans l'armée, mais ils seront intégrés dans les forces de défense et de sécurité. Merci, madame.
Et on parle aussi de la reconnaissance des grades. Est-ce que certains seront promus?
Oui, par rapport à la reconnaissance des grades, madame, permettez que je ne puisse pas toucher l'accord, parce que finalement, je violerai le principe de neutralité qui lie le facilitateur que je suis par rapport au parti. Je pense que l'honorable vient de rappeler que... il y a un consensus trouvé, d'ailleurs, au début de la mission, il y a un consensus trouvé, et qu'il reste que l'accord soit signé. Ben, pendant que la primaire est encore réservée à l'autorité, en tout cas, je ne mérite pas pouvoir entrer dans l'accord pour dire un mot. Mais sinon, tout le point évoqué, tout le point qui constituait les cahiers des charges de la FPI, ont trouvé un consensus pour finaliser ces travaux.
Alors, comment vous répondez à cet auditeur qui nous écrit depuis Banzangungu, Edouard Lukeba, qui dit ceci: encore une fois, notre gouvernement négocie en position de faiblesse. Il va négocier avec des brebis galeuses. Dans ce pays, il faut finalement prendre les armes pour se positionner dans l'armée. Les victimes de ces inciviques vous observent dans l'au-delà. Après-demain, d'autres groupes armés naîtront et s'attendront à une amnistie.
Oui, madame, je voulais d'abord préciser que la FPI, c'était un groupe d'autodéfense. Donc, c'est pas un groupe qui a pris les armes pour venir renforcer les institutions de l'État. Et,
mais c'est un groupe qui a causé quand même beaucoup, c'est un groupe qui a causé quand même beaucoup de dégâts dans la province de l'Ituri.
Oui, madame, si ce groupe-là a commis des dégâts, comme vous le dites là, en fait... je ne suis pas une institution habilitée à pouvoir parler de ces dégâts parce que, à partir du moment où il faudrait peut-être faire des comptes, et je pense que je ne suis pas en mesure de pouvoir dire que si le groupe a commis des dégâts ou quoi de quoi. Mais de toute façon, il faudrait se rassurer que l'État n'a pas agi en position de faiblesse, non. Parce qu'il y a eu des mesures de confiance qui ont été données de part et d'autre. Il y a plein de choses, des concessions que ce groupe a fait à l'endroit de l'État, vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, que je parle à madame, si vous allez à Guéti, en tout long de la route à Guéti, vous sentez que la vie y est revenue. Madame, moi-même, j'ai quitté Guéti à 22 heures pour arriver à Bounia. sans être inquiété. Et quand vous allez à Guit, vous sentez que finalement, les groupes là vivent déjà dans le pré-cantonnement, dans les citadins. Alors qu'il n'y avait pas encore accord qui était signé entre ce groupe et le gouvernement. Donc, c'est-à-dire, il y a eu des mesures de confiance qui ont été.
Mais ça reste quand même, ça reste quand même un groupe armé.
Oui, ça reste un groupe armé, mais je voulais souligner que ces mesures de confiance ont été données sur base de bonne foi de Paris. Vous voyez? Donc, s'il n'y avait pas de bonne foi, nous n'arriverions pas au niveau là où nous sommes arrivés aujourd'hui, madame.
On vous garde encore dans cette émission, Maître Lando. Je reviens à vous, Jackson Aoussé, député national élu du territoire d'Irumu en Ituri. Est-ce que, comme le dit notre auditeur de Manzangungu, ça ne sera pas une occasion pour certains individus de prendre les armes et se dire que non, on va négocier après avec le gouvernement, on va nous intégrer dans l'armée et puis on va nous donner des grades?
Il a raison et il n'a pas raison. Il a raison parce que nous devons rentrer dans une situation normale de fonctionnement de l'État. Et quand nous parlons de fonctionnement de l'État, on doit avoir une et une seule armée sur tout le temps de la République. On ne doit pas avoir une armée qui, il y a une armée quelque part, une armée parsemée et tout. On ne peut pas avoir plusieurs pôles d'armée. On doit avoir une seule. C'est là où il a raison. Là où il n'a pas raison, c'est que nous, ici, la situation, nous devons faire une analyse réelle. Nous devons voir les choses telles qu'elles se présentent, au-delà de voir les choses telles qu'elles devraient. Donc nous sommes en train de faire une analyse de la situation telle qu'elle se présente. La situation telle qu'elle se présente, c'est que nous sommes dans une situation où il y a une partie de notre pays, une partie de notre territoire, qui a été prise en otage, dont le peuple a subi beaucoup de dégâts pendant longtemps. Et dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On continue à garder cette population dans cette situation où avec la force, ou ça la force.
Donc l'État n'a pas les moyens ou la force de neutraliser la FPI, la FRPI.
Voilà, les moyens.
La raison pour laquelle il faut négocier avec ces gens, est-ce qu'ils sont plus forts que l'État? Ils sont plus forts que les FRDC?
C'est trop fort de dire qu'ils sont plus forts que l'État, c'est trop fort. C'est pour cela que j'ai dit, le débat ici, nous allons le faire dans le sens de faire l'analyse sur la situation telle qu'elle est, non pas telle qu'elle devrait être. Parce que si nous allons engager le débat dans une situation telle qu'elle devrait être, ça va nous amener un peu plus loin. C'est dans cette logique que je me dis, la paix n'a pas de prix. J'ai commencé par là. Pour avoir la paix, on doit apprendre aussi à faire des sacrifices. Et le sacrifice aussi, c'est que le gouvernement est en train de faire, de négocier une partie de sa légitimité, de négocier une partie de ses prérogatives avec des personnes qui, à principe, ne devraient pas faire, pourvu qu'il y ait la paix. C'est pour cela que j'ai dit, la paix n'a pas de prix, et pour mon territoire, parce que les conséquences sont malheureusement néfastes, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, c'est compliqué. Je peux souligner sur le plan économique, madame. On venait de voter la loi sur la réduction des comptes. Est-ce que vous savez que le territoire d'Irumu avait zéro comme contribution dans les budgets de l'État? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Je dis que ce n'est pas vrai, mais malheureusement, il y a la justification. Les gens se justifient par le fait qu'il y a ce groupe armé qui a insécurité à Irumu pour piller l'État, je dirais piller l'État, parce que ce n'est pas normal. Je sais qu'il y a des taxes que la population d'Irumu paye, mais tout simplement parce qu'il y a l'activisme des FRPI, on vous déclare que sous le budget national pour l'année 2018, Irumu n'a pas pu contribuer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il y a les gens qui en profitent malheureusement, abusivement, ainsi de suite. Donc, la population des territoires d'Irumu est en prison à ciel ouvert. Les gens qui ne savent pas aller dans leur champ. On ne sait pas aller visiter la famille de l'autre côté. On ne sait pas faire librement le levage. C'est la prison pure et simple à ciel ouvert. Ah, donc, il faut libérer cette population.
Merci, Jackson Aoussé, Didier Bitaki, ancien des groupes armés au Kivu. Vous êtes expert en désarmement et en droit international, humanitaire. Quelle lecture vous faites de ce compromis trouvé entre le gouvernement et les leaders des FRPI?
Merci, madame, pour la question. Je salue d'abord mes co-débatteurs. La lecture à faire par rapport à ce compromis, je me réserve de donner un jugement ou de faire un jugement de valeur sur ce qui est dit, parce que dans le concret, nous n'avons pas encore un document qui donne de la valeur à ces compromis. C'est-à-dire que ce sont des on-dit
pour lesquels j'aurais des difficultés à pouvoir me prononcer ou donner un avis d'expert. Mais en ce que je sache, il est bien dit et c'est connu que les accords sont faits, sont conclus de bonne foi. Donc, sont basés sur la bonne foi des parties. Cette bonne foi que nous constatons de la part, entre guillemets, du gouvernement congolais, et de l'autre côté, de la part de ce groupe FRPI, je ne peux que l'encourager. Mais malheureusement, mon constat est que nous risquons de reprendre, de répéter l'histoire. Je me rappelle bien que le FRPI avait encore accepté de déposer les armes en une certaine période donnée. Mais malheureusement, le FRPI a manqué d'interlocuteurs qui devaient donner des réponses à ces revendications. Et nous sommes malheureusement retournés dans la violence qui, jusqu'à présent, n'a pas trouvé de solution. D'une autre façon, je pense que même la personnalité qu'on a envoyée sur le terrain pour négocier ou faciliter cet accord entre le gouvernement et les FRPI, moi, en tout cas, me donne des doutes, parce que tout simplement, j'ai vécu cette expérience. Je me rappelle qu'à la conclusion des accords de Goma, dont les négociations se sont tenues à Nairobi, il y avait un délégué du gouvernement. Mais quand ce délégué du gouvernement-là a amené les conclusions auprès de son autorité, nous avons constaté tout simplement qu'il agissait de son propre chef. Alors, moi, je vais, par contre, questionner le mandat et le pouvoir du négociateur qui ne puisse refaire ce que les autres avaient fait dans le passé. Là, je cite le ministre et l'ancien ministre des Affaires étrangères qui avait fait presque la même chose, mais dont la compétence a souffert de la confiance du chef qui lui avait désigné pour conduire ces discussions-là et représenter le gouvernement. Alors, à plus forte raison, lorsqu'on descend sur le niveau du mécanisme national et de suivi d'un accord cadre, et que ce soit son délégué qui puisse négocier. De quel pouvoir dispose-t-il pour influencer la décision de celui qui doit exécuter sa part pour le compte du gouvernement? En tout cas, je mets en doute.
Mais si le mécanisme s'est retrouvé là-bas, c'est sûrement parce que c'est le gouvernement qui l'a délégué.
Nous en avons connu autant. Nous avons connu autant de cas dans le passé, mais ce qui a plongé le Kivu dans une instabilité quasi totale. C'est la même chose. Donc, je suis en train de me réserver, je l'ai dit sous réserve.
Pour vous, Didier Bitaki,
cette autorité ne pourra pas disposer d'un plein pouvoir pour agir et influencer la décision de celui qui doit apporter des réponses aux revendications des
FRPI. Pour vous, Didier Bitaki, vous voyez, il y a une question les groupes armés ont cette volonté de déposer les armes, mais c'est du côté du gouvernement où on ne respecte pas les accords.
Il y a toujours eu ce problème de respect du côté du gouvernement après avoir pris des engagements. Je vous assure, parce que rappelez-vous qu'il y a une question sensible qui concerne l'intégration de ces miliciens des FRPI au sein de l'armée. Ça, c'est une question sensible qui se traite au plus haut niveau de l'armée. Il y a une autre problématique qui concerne la reconnaissance de leur grade. Quand ils exigent que leur grade soit reconnu, ce n'est pas le coordonnateur du mécanisme de suivi, ce n'est pas non plus le ministre de la Défense, mais c'est le président de la République lui-même qui doit décider pour cette question. Alors moi, j'interroge maintenant le pouvoir dont dispose celui qui représente le gouvernement dans ces négociations-là, s'il a la capacité d'influencer la prise d'une telle décision. Encore qu'au sein de l'armée, il y a un problème qui concerne les grades, parce qu'il y a plus de grades, il y a plus d'officiers que de soldats. On en ajoute d'autres. Où est-ce qu'on en finira? Donc, je me réserve. Mais c'est une analyse que tout le monde pourra faire et il comprendra qu'effectivement, c'est la répétition de l'histoire qui risque de se refaire au niveau de l'Itoule.
Voilà. Donc, vous restez quand même assez pessimiste quant à un aboutissement heureux de ce processus. Hein.
De plein cœur et avec vraiment un vœu ardent, je souhaite que cette violence s'arrête à Ituri. J'encourage de plus les parties impliquées à pouvoir faire preuve de bonne volonté pour arriver à en finir définitivement. Mais je me réserve quant à ce qui concerne le gouvernement. Parce que dans la plupart des fois, il y a toujours eu... On peut signer exactement, on signe. Ce n'est pas le président qui va se déplacer. Mais faut-il savoir, est-ce que la personne qui engage, qui représente le gouvernement sur place, à l'écriture de celui qui l'a envoyé, qui a accepté le point 1, 2, 3, 4, pour que cet accord puisse définitivement rétablir la paix. Les gens ont beaucoup souffert. J'ai entendu les députés exiger que ce soit, parce que c'est déjà urgent, exiger que finalement ça finisse. Il a raison. Je les rejoins dans cette position-là et je demande que ceux qui sont impliqués dans ces pourparlers, dans ces négociations, en tout cas agissent sans ignorer ni négliger le moindre détail qui peut faire en sorte que les FRPI se reconstituent. Parce qu'après cela, il y aura une phase de restauration de l'autorité de l'État. Si les éléments des FRPI n'étaient pas satisfaits, croyez-moi, ils vont bloquer le rétablissement de l'autorité de l'État. Et en conséquence, ils peuvent se reconstituer. Donc ce sont des questions qu'il faut prendre avec toute la considération possible et y apporter des solutions définitives.
Merci, voilà. Didier Biteki. Maître Lando Mafuta, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est Monsieur Mwembonji Boujan-Jacques. J'appelle à partir de Kinshasa. Ma question est celle-ci. Avec la passation civilisée du pouvoir en RDC, le pays doit montrer à la face du monde une autre image qui consiste à punir les crimes imprescriptibles et viols commis par ces groupes armés, tout en évitant d'amnistier ces criminels au nom de la réconciliation nationale.
Maître Lando Mafuta.
Oui, merci madame pour la parole. Mais je voulais rapidement revenir sur quelques questions données par notre expert, l'ancien des groupes armés. Je pense d'ailleurs qu'il pouvait se servir de son exemple pour finalement parler de la possibilité de changement dans ce cas-là. Donc, par rapport à ce qu'il dit, la capacité du gouvernement, comment pouvait-il juger les gouvernements qui n'ont même pas encore signé l'accord dans son incapacité future, entre guillemets, de pouvoir agir.
Il se base des expériences passées.
Oui. Je voulais vous rassurer que les négociations directes ont eu lieu entre les experts du gouvernement central et l'état-major général de FPI. Et ces négociations se sont déroulées dans un climat d'inquiétude. OK? Et finalement, nous sommes arrivés à ces documents. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est la signature prochaine d'un accord et il y a un calendrier qui sera respecté. Donc il sera sûr que de son expérience, pas négative mais positive, cette fois-ci, nous allons aussi aller dans une expérience positive avec nos amis de RDPI. Alors pourquoi le mécanisme se retrouve là, pourquoi tout ça, machin, je voulais les rassurer que le mécanisme agit dans le cadre d'accord cadre de sa débat et qui fera éventuellement rapport. Mais la volonté du chef de l'État, c'est là où je rejoins la question de notre ami de Mbandangungu. Le gouvernement congolais applique la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État a fait un appel, a fait un appel aux groupes armés de pouvoir blesser les armes. Et puis, ceux qui ne voudront pas prendre ce chemin-là, ils pourraient s'en prendre à eux-mêmes. Donc, finalement, ce n'est pas que le gouvernement négocie en position. Le gouvernement n'a fait qu'appliquer la volonté du chef de l'État. Et c'est comme ça que la FPI a aussi répondu à cette volonté du chef de l'État pour pouvoir faire la paix dans ces côtés, dans ces coins du pays.
Il y a Jean-Jacques Mwembo qui dit qu'il faut éviter d'amnistier ces criminels au nom de la réconciliation. Est-ce que vous pensez à toutes ces victimes de ce groupe armé?
Oui, madame, si amnistie y aura, c'est d'abord une amnistie sur le fait instructionnel, insurrectionnel. Et cela pourrait aller cas par cas. Et finalement, pour l'impératif de la paix, c'est ça la question. Nous sommes là, nous avons travaillé pour que finalement qu'il y ait la paix. Je crois que l'honorable a bien rappelé que dans cette partie du pays, il y avait un problème sérieux. Mais les impératifs de la paix répondant à l'appel du chef de l'État, et nous voici aller dans le sens de pouvoir trouver un compromis, et puis ça sera peut-être une expérience qui sera pratiquée par toute arrière. Donc notre ami de Goma, ancien des groupes armés, pouvait se rassurer que la détermination qu'ont des autorités du pays nous ramènera à ce que nous puissions avancer dans le sens positif de l'affaire.
Alors, il y a une autre réaction pour vous, Maître Lando, qui vient de Freddy Bossimo depuis Kisangani, qui dit ceci. Le gouvernement vient de nous prouver son incapacité d'éradiquer les groupes rebelles qui sèment terreur et désolation dans la partie est du pays. Ce compromis à la Congolaise témoigne qu'on est loin du changement, car nous l'avions vécu durant les régimes précédents, et ce, sans issue favorable, sinon les problèmes sécuritaires seraient déjà résolus.
Oui. Madame, je voulais aussi les rassurer que le gouvernement n'est pas seulement dans le front négociation. À Beni, le gouvernement est sur le front contre les ADF. Donc, voir le gouvernement aujourd'hui négocier avec un groupe, c'est-à-dire et le gouvernement et ce groupe-là répond à un appel lié à l'impératif de la paix. Donc, je pense que sur cette question-là, j'ai répondu, ce n'est pas l'incapacité seulement du gouvernement. Il n'y en a pas d'ailleurs. C'est surtout l'impératif de la paix et répondant à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président.
Merci, Jackson Aoussé. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
Maître Francis Vissot, depuis Goma, je m'oppose à ces intégrations répétitives qui se font en RDC dans notre armée. Parce que nous avons constaté que, par exemple, pour les intégrations passées dans le Kivu ici, avec les éléments du CNDP par exemple, nous avons constaté qu'il y avait des cultivateurs qui sont devenus des majors, il y avait des bergers qui sont devenus des capitaines, il y a eu des analphabètes qui sont devenus des généraux. Cela a créé un dysfonctionnement et des problèmes sérieux au sein de notre armée. Alors moi je m'oppose carrément à ces intégrations qui ne nous apportent presque rien. Il faut carrément écraser ces groupes armés qui sont en train de déranger la partie est du pays.
Jackson a aussi.
Oui, mon ami de Goma avait mené le débat à des fonds, le débat rationnel, le débat, je dirais, de idéal, mais malheureusement, la situation telle qu'elle se présente nous demande d'aller un peu plus vite, à limiter les dégâts collatéraux, parce qu'on en a déjà enregistré beaucoup. Je profite par contre sur cette antenne maintenant de sensibiliser nos frères qui constituent ou bien qui représentent, n'est-ce pas, l'FRPI. Les gens qui meurent dans les territoires du Rumu, soit par affrontement entre FRPI et FRDC, ou par les actions isolées des FRPI et consorts. Ce sont les fils et les filles des territoires du Rumu. Il n'y a pas quelqu'un, je ne vois pas quelqu'un, je ne sais pas moi, de l'Occident ou de l'Orient mourir là-bas. C'est nous-mêmes qui mourrons. Et aujourd'hui, je révèle à mes frères du Rumu, FRPI, que franchement, avant même l'accord, nous devons nous désengager sur cette ligne-là. Ça ne nous a pas profité. Aujourd'hui, la zone-là, la chefferie appelée la chefferie de Getty, la chefferie de Boga, la chefferie de Banyalitiabi et consorts, c'est une zone tellement riche. La terre est hyper fertile. Donc l'agriculture, c'est une zone agro-pastorale. Donc l'agriculture s'y porte très bien. L'élevage s'y pratique aisément. Mais aujourd'hui, c'est des domaines qui constituent, n'est-ce pas, le pivot, l'armature de la vie économique de cette population et taberne. Il n'y a pas de route pour l'évacuation. Il y a pas, donc les véhicules ne peuvent pas accéder à cette zone-là. Or, dans ces zones, nous avons une population très active, une population qui pratique l'agriculture par sa main, sans outils adéquats. C'est pour cela que j'interviens, je dis à nos frères de faire pays de laisser cette histoire. Parce que je les informe aujourd'hui que nous sommes députés, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous sommes malheureux arrivés à l'Assemblée nationale. On nous dit que nous, notre territoire, le territoire du Rumu, ne contribue pas pour le budget de l'État. Madame, ça n'honore pas. Comment voulez-vous que tu sois député de l'Assemblée nationale, que tu payes les salaires, mais les territoires dans lesquels vous êtes élu ne contribuent pas pour le budget? Est-ce que vraiment c'est un objet de fierté?
Est-ce la faute à la population ou bien au gouvernement qui n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État?
Oui, le gouvernement n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État, mais le gouvernement, à ce moment, ça se justifie. Il se justifie de dire que non, ce territoire n'a pas pu contribuer tout simplement parce qu'il y a des sécurités d'État. Ah, donc, la responsabilité est à partager. Nous, les enfants de l'État du nous. Si nous sommes vraiment très conscients, nous devons nous arrêter. Parce que sur le plan politique aussi, nous sommes malheureux par le fait que notre territoire ne mérite pas d'avoir 3 sièges à la députation nationale. Ah donc, les problèmes d'enrôlement se posent. La population étant en mouvement permanent, ça ne nous a pas pu permettre de maximiser notre énergie politique. Et donc, ça pose énormément de problèmes.
Didier Bitakio, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kikwit.
Walter Rumbini à Kikwit. Tout en saluant la volonté des deux parties à signer cet accord, je reste pessimiste que du gouvernement qu'on n'exécute pas ces recommandations. Car ceci n'est pas la première fois que le gouvernement signe un accord avec des groupes armés. Nous demandons cet effet au Premier ministre de penser à l'exécution de cet accord. Ceci encouragera les autres groupes armés à déposer les armes et favoriser la paix dans l'est de notre pays.
Alors, on s'excuse pour la qualité de la ligne. Didier Bitaki, cet auditeur de Kikwit, salue la volonté de deux parties, des mondes. Mais il reste quand même assez pessimiste quant au respect de cet accord par le gouvernement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure. Il dit que c'est pas la première fois que le gouvernement signe un accord avec des groupes armés, mais malheureusement, ce dernier ne respecte toujours pas son engagement. Il demande au Premier ministre de penser à l'exécution de cet accord. Ceci va encourager les autres groupes armés à déposer les armes.
Voilà exactement un auditeur qui comprend ce que je venais de dire tout à l'heure. Je pense que le monde entier, ce n'est pas seulement cet auditeur de Kikwit, ce n'est non plus l'ensemble de la population congolaise, mais c'est tout le monde qui fustige les agissements du gouvernement. L'État n'a pas disparu avec le changement à la tête du pays des animateurs. Non, l'État reste l'État congolais. L'administration reste l'administration. L'armée fait partie de l'administration publique d'un pays. Je voudrais rappeler à mon frère Landou, qui est au mécanisme national de suivi, qu'il devrait se poser la question pourquoi est-ce qu'on va au Rwanda pour négocier avec les M23 qui se trouvent au Rwanda. En Ouganda pour négocier avec les M23 qui se trouvent en Ouganda. Vous prenez l'ensemble de tout ce groupe de la bande allant du sud Kivu, de Minembwe, jusqu'à Beni. Pourquoi il y a instabilité là-bas? Est-ce que des textes n'ont pas existé? Inspirez-vous de l'expérience des autres et puis suivez cela. Parce que ne pas comprendre les conseils que nous prodiguons. D'ailleurs, ici, j'étais en train de prodiguer un conseil en disant qu'il devrait se munir du plein pouvoir lui permettant d'agir pour arrêter ce cycle en Ituri, comme c'est à lui qu'on a confié cette responsabilité. Mais ben, écoutez, nous devons nous dire les choses en face et avec toute la vérité qu'il faut pour aider notre pays. Vous savez, en Ituri, cette expérience s'est répétée à 3 reprises avec le même mouvement. Donc, ce ne serait pas une première fois qu'il y aurait une telle tentative. Mais cette fois-ci, comme il a si bien dit l'honorable, je crois que lui, en tant que natif d'Ituri, et comme il a déjà fait sa part à sensibiliser, à en appeler ces gens à la reddition, tout le monde le fait, moi je le fais également. Mais par contre, je demande au gouvernement d'être sérieux, mon Dieu, comme ce fut le cas dans le passé, nous ne voulons plus assister à cette expérience-là. Nous aimerions qu'aujourd'hui, nous disions que bon, je peux me déplacer, je vais à Ituri, je ne veux plus écouter des bruits de la mort, je ne veux plus suivre les bruits des armes. Mais quand on est dans une telle phase, il faut ouvrir les oreilles, il faut ouvrir les cœurs et il faut savoir que une fois que l'accord aura été signé et le désengagement commence, c'est en ce moment-là que ses propres adversaires, ses propres contradicteurs viendront du camp du gouvernement. Nous avons connu cela, nous avons vécu, nous avons assisté à ce genre de choses, mais notre volonté d'aider le pays a fait que, bon, écoutez, nous puissions atténuer ce qu'il fallait atténuer. Donc, c'est pour dire que la paix à Ituri est un impératif maintenant, est un impératif. C'est une exigence parce que la paix partira de l'Ituri pour affecter le Nord Kivu, le Sud Kivu et même bien d'autres provinces. Mais lorsqu'on pourra tenter de le faire avec la légèreté qui a couvert les premières opérations, je pense que ça ne nous aidera pas.
Merci,
mon appel au gouvernement est d'être sérieux.
Merci. Merci Didier Bitaki. On va prendre rapidement quelques réactions des auditeurs. Clément Héro Katabwa, militant de la lutte depuis Kananga. Je salue les efforts fournis pour arriver à l'accord, mais je trouve inopportun d'insérer ces gens dans l'armée. Aimé Bika, depuis Uvira au sud Kivu, c'est vraiment grave ce que le gouvernement est en train de faire entre le gouvernement et ses miliciens. Je crois que c'est le gouvernement qui a le rapport des forces aujourd'hui, mais malheureusement, c'est lui qui se soumet à la volonté de ces inciviques. Delphin Moukala, depuis Likasi, d'après moi, c'est encourager les groupes armés à commettre des crimes graves parce que demain, il y aura des négociations. Alors, Maître Lando Mafuta, on l'a parlé aussi parmi l'accord trouvé avec ces miliciens. On a parlé aussi de la libération des leaders de ces groupes armés qui sont en prison à Kinshasa. Le gouvernement promet de prendre des mesures appropriées. C'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est-à-dire qu'on va étudier cas par cas avant la libération des leaders de ces groupes armés?
Merci beaucoup, madame, pour la question. Je voudrais encore une fois vous rassurer que finalement, je ne vais pas évoquer les fonds de l'accord parce que finalement, cet accord n'est pas encore signé et puis l'autorité n'a même pas encore reçu la copie des discussions pour finalement proposer une date de signature. Mais je voulais revenir sur notre auditeur, notre ancien Fédéric. Enfin, m'excuser, hein, parce que finalement le nom...
Allez-y rapidement parce que nous sommes à la fin de l'émission, ça sera aussi votre conclusion.
Oui, oui, madame. Je voulais les assurer que si ces préoccupations sont données en termes de conseils, là bien sûr nous sommes réceptifs à pouvoir entendre ces conseils. Mais si par exemple ils lisent ça par rapport à l'expérience et ils pensent que ça sera la même chose pour le futur, je voulais aussi lui dire que ce n'est pas la même chose parce que finalement l'État RFPI, c'est le premier cas depuis que le président de la République, depuis qu'il y a eu une passation civilisée, hein, c'est pratiquement le premier cas que le gouvernement a géré. Hein,
merci. Maître Lando Jackson, a aussi votre conclusion. Quelle est la bonne approche pour régler la question des groupes armés en une phrase?
En fait, nous, à partir de demain, pour être pratique, nous allons déjà commencer à contacter le bureau de l'Assemblée nationale afin que cette fois-ci, le gouvernement ne pousse pas et qu'il n'est même pas à un mètre en arrière. Ah, donc, comme le processus est déjà engagé, un mois, c'est beaucoup pour qu'un accord soit signé et que nous voyons matérialiser tout ce qui a été pris comme compromis. Et nous, demain déjà, nous actionnons nos moyens de contrôle parlementaire.
Didier Bitaki, votre conclusion.
Ma conclusion est que j'encourage d'abord les partis à pouvoir faire preuve de bonne foi. Et ensuite, je leur demande de ne pas oublier qu'il y a des crimes imprescriptibles à là au-delà de faits de guerre et faits insurrectionnels qui ne doivent pas être amnistiés, donc il faut les considérer, parce qu'ils ont été commis par les deux parties au conflit. Et nous, nous nous réjouirons que justice sera rendue au peuple d'Ituri et il trouvera la paix cette fois-ci à travers ces processus engagés.
Merci Didier Bitaki, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.